nos voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque vendredi. On fera le point en deuxième partie d'émission sur la précarité étudiante depuis qu'un étudiant de 22 ans s'est immolé à Lyon devant les bureaux des œuvres universitaires parce qu'il n'avait plus droit à sa bourse pour cause de redoublement multiple. Mais dans l'immédiat, nous débattons avec nos invités sur l'école comme ascenseur social. Bonjour Bernard Lahire.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'École normale supérieure de Lyon. Vous publiez un ouvrage collectif que vous avez dirigé, Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants. Plus de 1200 pages décrivent avec une précision quasi médicale le quotidien de 18 enfants, il y en avait plus d'ailleurs à la base, l'état de leur logement, ce qu'ils mangent, comment ils parlent, avec quoi ils jouent et surtout qui sont leurs parents et comment ils les élèvent. Et à l'école, quelles sont leurs capacités scolaires, comment ils se comportent dans la classe face aux apprentissages. En principe, on le dit, le rôle de l'école partout dans le monde, c'est de donner la même chance à chaque enfant d'apprendre, de se réaliser, d'avoir un avenir. Mais dans la réalité et dans un ascenseur social en panne, on peut se demander si vos enquêtes avec leurs résultats implacables sur des inégalités dès la petite enfance ne revient pas à faire peser finalement sur les seuls parents des responsabilités écrasantes. Tout se joue dès les premières années de l'enfance et presque uniquement dans la famille. Comment est-ce possible? Vous allez nous l'expliquer. On va aussi poser la question à Pierre Perrier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2 et vous publiez « Des parents invisibles, l'école face à la précarité familiale ». Vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Armorique à Rennes et d'ailleurs nous les en remercions. Et quant à vous, les voisins et les voisines qui nous écoutez, est-ce que vous avez le sentiment dans votre pays que l'école est totalement impuissante à faire réussir des enfants qui ne seraient pas nés dans une famille éduquée au sens scolaire? C'est à vous de nous répondre. Vous pouvez nous appeler et participer à l'émission si vous le souhaitez. Notre numéro de téléphone, c'est aussi le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous appeler gratuitement pour nous laisser aussi des messages écrits au 33 1 84 22 71 71. Et en toute fin d'émission, une toute nouvelle chronique chaque semaine, c'est désormais le psychologue Ibrahima Girou à Dakar qui prend le relais pour la chronique Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, il sera question d'ailleurs aussi des parents qui cadrent trop ou pas assez leurs enfants. Voilà, je vous ai annoncé tout le menu de l'émission. Je rappelle notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bernard Lahire, Pierre Perrier, on va commencer avec vous Bernard Lahire. Comment vous avez travaillé, comment vous avez choisi des familles comme objet d'enquête?
Alors, on a fait le choix de travailler sur des enfants qui ont entre 5 et 6 ans, qui sont en grande section de maternelle, donc la dernière année d'école maternelle. On a choisi des enfants qui sont issus de milieux sociaux très contrastés. On va des milieux populaires avec les plus précaires jusqu'aux plus stabilisés dans les milieux populaires qui ont des revenus stables, un peu de diplômes, etc. Et puis on monte vers les classes moyennes avec des enfants qui sont dans des situations très différentes, que ce soit des enfants d'agriculteurs, de commerçants, d'enseignants, de travailleurs sociaux, etc. Et puis on monte encore et on va dans les classes supérieures avec... on a des enfants d'écrivains, des enfants d'artistes, des enfants d'avocats, de grands patrons, etc. Donc on a voulu vraiment comparer la situation de ces enfants dans des domaines très différents, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans la présentation, c'est-à-dire aussi bien dans les pratiques alimentaires que dans les pratiques de loisirs, les pratiques langagières des parents, pour voir un petit peu comment pesaient en fait sur ces enfants des réalités très très différentes finalement. Parce que ces enfants, ils ont le même âge, mais ils ne vivent vraiment pas les mêmes réalités, ils ne vivent pas dans le même monde. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre en évidence.
Alors, il y a une petite fille rome dont les parents sont arrivés de Roumanie en France il y a près de 10 ans. Ça, c'est la toute première qui vit effectivement dans une famille pauvre. Il y en a d'autres. Il y a une famille qui vit dans une voiture pour ce qui est des enfants de migrants. Et puis, comme vous le dites, ça se termine par Valentine, une petite fille de la bourgeoisie parisienne des beaux quartiers. Et entre ces deux extrémités, entre les très pauvres et les très riches, il y a plein de cas de figure différents. Il y a Léonie dont la maman est coiffeuse, le papa électricien, Thibaut qui grandit à la ferme, Rebecca qui vit avec deux mamans en couple homosexuel. Donc il n'y a pas que d'ailleurs des histoires de revenus financiers qui pèsent sur ces enfants.
Ah non, bien sûr. D'ailleurs, on sait depuis maintenant plusieurs décennies que ce qui pèse sur les parcours scolaires, c'est plus le capital culturel, comme on dit, c'est-à-dire le niveau de diplôme, d'études des parents, que véritablement le niveau de revenu. Ceci dit, nous, ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est que à un moment donné, quand on n'a vraiment pas de moyens économiques, même l'accès à la culture est un problème. La maman d'Achan, qui vit en foyer Sonacotra avec son fils, elle ne peut pas payer une place de cinéma à son enfant. Elle y va parce qu'il y a une entraide entre parents et que de temps en temps, on lui donne une place de cinéma. Mais l'enfant n'a pas de loisirs. Les loisirs, c'est d'aller au centre commercial pendant le week-end.
Si les bibliothèques sont gratuites en France, dans les villes.
Oui, mais le problème, c'est que la maman d'Achan, elle ne parle pas bien le français, qu'il y a un problème. Ce qu'on sait de la sociologie des publics en bibliothèque, c'est que très peu de parents et d'enfants de milieux populaires fréquentent la bibliothèque. Donc on a comme ça un cumul de problèmes.
C'est ça, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un pays où il n'y a pas d'offres.
Non, il y a une offre, et parfois même gratuite. Il y a un vieux travail sous la direction de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, qui avait fait sur les musées, en montrant que les musées sont...
Musées, ils ne sont pas gratuits, en l'occurrence.
Mais même quand ils sont gratuits, le frein est culturel. Pour avoir envie d'entrer dans un musée, il faut ne pas être impressionné, avoir envie d'y trouver quelque chose. Donc ça veut dire la formation d'un goût. Et ce goût, il se forme dans la famille, avec des parents qui sont plus ou moins intéressés par les questions artistiques.
Il n'y a pas que le milieu social, le niveau d'éducation du papa, de la maman. Vous avez choisi des familles dans des territoires très différents.
Oui. On a voulu aller du côté
de la
campagne, absolument. On a des grandes villes, on a des petites villes. On voit qu'il y a des effets aussi d'éloignement des centres urbains, l'éloignement d'institutions culturelles où l'offre est beaucoup moins importante en matière sportive, culturelle, etc. Donc il y a des inégalités aussi territoriales.
C'est-à-dire qu'un petit garçon qui grandit à la ferme, par exemple, dans la nature, avec une vision assez bucolique, finalement, les poules, les canards, etc., avec des parents aimants, mais qui n'ont pas l'idée de l'emmener voir un spectacle, de l'emmener à la bibliothèque, alors que pourtant, tout ça n'est pas un problème financier réel.
Oui, mais c'est lié à des cultures, à des habitudes culturelles. Quand les parents n'ont pas d'habitude d'aller au musée, d'aller dans des spectacles culturels, etc., le goût n'y étant pas, ils ne transmettent pas ces compétences et ces goûts à leurs enfants.
Alors, tout ça, nos auditeurs qui nous écoutent, vous ne leur faites pas de révélation quand vous leur dites ça. Non. Tout le monde le sait, ça, finalement.
Oui, alors tout le monde le sait et en même temps, on l'oublie rapidement.
Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée à l'école dès la maternelle?
Ce qui se passe, c'est que, alors qu'on croit que les enfants sont très malléables et que ils sont tout petits, donc en plus l'école maternelle, c'est pas un lieu où on imagine qu'il y a une grande compétition, une grande concurrence entre enfants. Ça a pas véritablement commencé dans la tête de plein de gens. Oui. On s'imagine que ça commence au cours préparatoire. C'est là que ça commence vraiment, etc. Et en fait, on voit que pas du tout. Ça a commencé avant l'entrée à l'école et ça continue à partir du moment où ils rentrent à l'école. Et quand ils rentrent à l'école, ils sont déjà dans des états formidablement différents. Ce ne sont pas les mêmes enfants. Il y a des enfants qui parlent très très bien et d'autres qui parlent pas bien, voire qui sont dans des difficultés langagières. Il y a des enfants qui ont eu des histoires racontées ou lues chaque soir et qui ont entendu des milliers d'histoires au moment où ils commencent à rentrer à l'école maternelle, alors que d'autres ne l'ont pas eu. Il y a des enfants qui ont voyagé à l'étranger et d'autres qui n'ont pas voyagé à l'étranger. Il y en a qui ont leur chambre et d'autres qui n'ont absolument pas d'espace à eux, etc. C'est-à-dire que c'est des enfants très, très différents.
Ça aussi, on le sait, mais la plupart d'entre nous se disent « Et alors, l'école va rattraper tout ça ?»
Et oui, alors voilà, ça c'est l'illusion. Et souvent, on fait porter une lourde responsabilité à l'école, alors que tous les sociologues savent bien que l'école, elle fait avec l'état du monde social tel qu'il est. C'est-à-dire, c'est pas l'école qui invente les classes sociales, les grandes différences de conditions d'existence des familles. Et donc, on ne peut pas imaginer, même avec les meilleurs dispositifs et la meilleure bonne volonté, changer tout par l'école. L'école, elle fait ce qu'elle peut avec des différences qui arrivent à l'école. Ces différences, elles ont été produites dans les milieux familiaux.
Ça veut dire, alors Pierre Perrier, vous qui avez travaillé sur les parents par rapport dans leur relation à l'école, que quand on entend ce que vient de dire Bernard Lahire, c'est que finalement tout se joue avant 3 ans, ce que disent d'ailleurs aussi les psychologues, mais plus sur l'aspect affectif, psychique, mais ça veut dire que tout pèse sur la responsabilité des épaules des parents, Pierre Perrier ?
Beaucoup pèse sur la responsabilité, en tous les cas sur ce que les parents font dans l'éducation avec leurs enfants au quotidien. Alors, avant d'entrer à l'école, dès les premières années et après. Et la question qui se pose, c'est comment l'école fait avec ces différences qui sont marquées, comme vient de le rappeler Bernard Lahire, dès l'entrée dans les premières classes, donc de langage, d'interaction avec les autres, de respect des règles, de manière de se tenir dans son corps, etc. Donc il y a, une différenciation sociale précoce et il y a aussi, à travers les relations avec les parents, ce que j'ai étudié de plus près, donc un enjeu de compréhension, d'échange, de réciprocité qui est aussi difficile à mettre en œuvre.
Donc parler, obéir, critiquer, enfin c'est tout le savoir-être dont on va avoir besoin dans sa vie future qui est déjà conditionné dans les premières années de l'enfance. Et Bernard Lahire, vous l'expliquez, ça va être finalement le destin scolaire, il est scellé déjà à l'arrivée à l'école maternelle.
Alors on ne dit pas ça, on ne dit vraiment pas ça. C'est-à-dire que tout est joué avant 3 ans, ça on ne l'a pas écrit, je ne pense pas. Je pense que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a des moyens d'arranger les situations. Sinon, la sociologie serait totalement fataliste en disant c'est fait, c'est pas la peine de mener une politique, c'est pas la peine d'aider les familles, c'est pas la peine d'imaginer une nouvelle pratique pédagogique à l'école ou de dédoubler les classes, etc. Donc, bien sûr que si, tout n'est pas scellé. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites et quand vous avez d'un côté des parents qui vont chercher les meilleurs DVD pour que leurs enfants regardent les films d'animation choisis parce qu'ils sont d'une grande qualité culturelle.
Pendant ça, c'est pour les parents très favorisés.
Voilà, les autres n'ont pas accès à ça.
Et quand ils ne confisquent pas carrément la télé parce qu'ils disent qu'il y a des idioties à la télé et que c'est mauvais pour leurs enfants.
Oui, la première stratégie de parents qui ont du capital culturel, comme on dit, c'est
de supprimer la télé.
De ne pas avoir la télé ou de l'interdire aux enfants et de n'y avoir accès qu'avec des DVD, c'est-à-dire avec des choses qui sont choisies et qui sont très contrôlées, en fait.
C'est ça. Et à la place, on va passer plus de temps à lire des histoires et donc à développer le langage des enfants, l'acquisition du vocabulaire. Mais quand même... sur l'école, un élève français passe en moyenne plus d'heures à l'école que dans la plupart des pays de l'OCDE, des pays développés. Plus de 8000 heures par an au primaire et au collège, contre 7500 heures en moyenne dans les pays de l'OCDE. Alors comment se fait-il que l'école n'arrive pas à gommer ces inégalités des premières années de la vie chez l'enfant ?
Mais parce que c'est la primauté de la socialisation avec les enfants, avec les parents. C'est-à-dire qu'au départ, un enfant qui naît commence à se construire avec ses parents, dans l'interaction avec ses parents. Toutes ces choses qui arrivent en premier vont être déterminantes pour lui. C'est-à-dire qu'il commence à se construire sur cette base-là. Donc forcément, même quand on rend obligatoire l'entrée à 3 ans, ce qui est le cas désormais en France, pendant 3 ans, il y a eu des milliers d'interactions qui se sont faites de manière très différente d'un milieu à l'autre. Elles se sont toujours faites, il y a toujours eu des interactions, mais de nature très très différente et qui sont plus ou moins compatibles avec ce que demande l'école.
Ce que vous appelez des interactions, c'est quoi ?
C'est des parents qui parlent à leurs enfants, qui gèrent des rapports d'autorité avec eux, qui attirent leur attention sur des intérêts culturels particuliers, qui jouent à des jeux pédagogiques ces interactions, c'est les liens qui se tissent, qui se nouent en permanence entre les parents et les enfants. Et c'est à travers ces liens que se construisent les enfants. Donc forcément, pendant 3 ans, voilà, ça ne se construit pas de la même façon.
On parle de l'école et des inégalités sociales dès l'enfance avec nos invités. Bien sûr, vous pouvez nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
On accueille un auditeur qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Ibrahima.
Bonjour, merci.
Ibrahima, vous avez tenu à témoigner à cette antenne parce que vous êtes aujourd'hui, vous avez 37 ans, vous êtes professeur de philosophie et de littérature en lycée et vous êtes entré à l'école à 13 ans, c'est ça ?
Effectivement.
Racontez-nous.
Voilà, au fait, j'ai eu une jeunesse un peu bouleversée. Mon papa et ma maman se sont séparés à bas âge, quand j'avais 4 ans. Mmh. Il a fallu attendre après 9 années pour que je revienne encore chez mon papa, pour qu'il m'inscrive à l'école. Et qu'après ça, j'ai évolué, j'ai suivi le cycle normal, c'est-à-dire que j'ai eu le BPC, je suis rentré au lycée. Après l'université, actuellement, je suis diplômé. Depuis 6 ans maintenant, 7 ans, j'enseigne la philosophie et la littérature au lycée.
Ibrahima, il y a beaucoup de bruit autour de vous. On a du mal à vous entendre, je le dis vraiment pour le confort de tous les voisins et les voisines qui écoutent l'émission. Mettez-vous au calme. À quel âge vous avez appris à lire ? Vous avez appris à lire en entrant à l'école à 13 ans ou vous saviez déjà lire ?
Alors, l'entrée à l'école, déjà à 13 ans, je ne savais pas lire, mais je pouvais citer les lettres, l'alphabet français. Vous pouvez compter les tables de multiplication un peu, mais lire, construire des phrases exactement, je n'avais pas cette notion-là. Mmh. Il a fallu après 13 ans maintenant que j'essaie de me réadapter par rapport à tout.
Et vous n'étiez pas allé à l'école jusqu'à 13 ans parce que c'était pas possible pour votre maman de vous mettre à l'école ?
Justement, c'était pas possible par rapport à ma maman. Parce que quand ils sont séparés, mon papa et ma maman est partie au village, il m'a kidnappé. En famille, on est parti au village, il a bloqué tout. Parce qu'il était frustré, il était énervé vis-à-vis de la séparation, vis-à-vis de mon papa. Mmh. Donc, je n'ai pas bénéficié de la scolarité pendant 9 ans au moins.
Oui, parce que l'école était payante et c'était trop cher.
L'école était payante, c'était trop cher. Ma maman a abandonné les études elle-même d'abord à l'âge de 17 ans. Elle m'a mis au monde, elle a été mariée par obligation, par nécessité. Mmh. Donc, il n'a pas eu la chance. Mais imaginez-vous dans un monde où vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas même des parents qui sont riches. Donc, c'était extrêmement difficile que vos enfants aussi puissent étudier.
Votre maman, elle savait lire et écrire ou pas ?
Elle savait un peu lire et écrire parce que c'est elle qui m'a appris les premières phrases et les premières lettres de l'alphabet ainsi que les premiers chiffres à compter et la table de multiplication.
Comment vous avez fait en sachant, pour ainsi dire pas lire, à 13 ans, quand vous êtes entré à l'école, pour ensuite aller à l'université et terminer professeur de lettres ?
Voilà, parce que d'une certaine façon, je savais déjà la nécessité de la science ainsi que l'importance de l'école, parce qu'on est dans la vie sociale, j'ai regardé des choses, des amis, ainsi de suite, qui avaient les parents qui étaient riches. Donc parfois on avait un peu la jalousie, on voulait réellement être comme eux, faire les choses comme eux. Mais malheureusement, à bas âge, on n'a pas eu cette chance, nous autres. Mais il a fallu qu'on soit déterminé, qu'on ait le courage et qu'on ait la motivation aussi de surmonter tout ça. C'est vrai qu'à bas âge, c'est un peu difficile. Mais parfois, la chance peut nous sourire. Donc moi, je me suis conduit dans ce sens-là, avec détermination, avec courage, pour affronter les épreuves, en suivant mon destin aussi, d'une certaine façon. Parce que d'une part, en Afrique, on a aussi une notion de ces valeurs de culture, de civilisation, ainsi que de la religion, de la croyance, ainsi de suite. Oui.
Vous diriez que c'est l'école qui vous a permis ce rattrapage très tardif?
Oui, actuellement j'ai la conviction absolue que c'est l'école. Puisque nous étions l'école, peut-être que je n'allais pas pouvoir m'intégrer à la vie d'aujourd'hui. Je ne pourrais pas avoir la chance d'être professeur aujourd'hui, écrivain en même temps. Mm. Moi je pense que l'école a fondamentalement joué pour moi, pour ma reconstruction, d'une certaine façon, non seulement au niveau de la pensée, au niveau de la vie sociale, au niveau de mon statut actuellement, qui est plus ou moins apprécié et respecté par les gens. Mmh.
Vous avez énormément lu dès que vous avez appris à écrire à 13 ans, ou ça a été plus tard, la découverte de la lecture?
Non, après 13 ans, j'ai commencé à lire, parce que mon papa avait acheté les journaux chaque fin de mois, les Paris Match. Les Paris Match, Le Monde, ainsi de suite, parce qu'ils avaient beaucoup de ça. Quand ils finissaient de lire un journal, ils déposaient dans ma chambre. Avec le contact là que j'ai commencé à, les premières images ont commencé à me venir, j'ai commencé à lire petit à petit, jusqu'à ce que je suis réellement arrivé au collège. J'étais déjà imprégné de la littérature, j'ai commencé à lire la littérature africaine, ainsi de suite. Et là où je vous parle, là, automatiquement, j'ai parcouru toute la littérature française du 16e siècle jusqu'au 19e siècle, en passant par le siècle des Lumières.
Wow.
Tous les plus grands auteurs français, je pouvais les citer, leur bibliographie, parce que je suis un lecteur boulimique d'une certaine façon.
Ouais. Mais en fait, vous avez eu deux vies, alors Ibrahima. Une première vie jusqu'à 13 ans, hein, avec une maman pauvre et pas d'accès à l'éducation. Et puis une deuxième vie avec un papa qui avait plus d'argent. Ensuite, il est décédé, mais vous avez pu payer vos études avec ce qu'il vous avait laissé. C'est bien ça, hein?
Effectivement, c'est ça. Parce que j'ai vécu aussi entre les deux points, entre les deux cultures, entre les deux civilisations. Parfois chez mon papa, des fois aussi chez ma mère. Mais quand j'ai perdu mon papa, ça a été trop difficile. Mais malheureusement, il avait laissé un certain nombre de biens d'héritage qu'on se partageait. C'est avec ça que j'ai payé un peu la scolarité et je venais en aide aussi par rapport à ma maman jusqu'à ce que j'ai pu achever les études.
Merci Ibrahima de nous avoir téléphoné. Je vous avais dit au Standard, vous avez publié votre histoire d'ailleurs, sous le titre Une vie très particulière, c'était il y a une dizaine d'années, aux éditions Le Manuscrit. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé pour nous faire part de cette vie en effet assez singulière, sûrement assez atypique, hein, quel que soit le continent, Bernard Lahir. Néanmoins, qu'est-ce que ça dit finalement cette histoire? Qu'est-ce que vous comprenez en tant que sociologue des inégalités?
Ah non, mais je comprends qu'il y a des cas exceptionnels et ça fait partie des cas atypiques. Alors atypiques statistiquement, c'est-à-dire qu'il est exceptionnel dans le sens où c'est très rare que ce genre de situation débouche sur un parcours scolaire et professionnel aussi positif, on va dire. La plupart des enfants, s'ils n'ont pas accès très tôt à l'écrit, ont pas cette chance-là du tout. Donc j'entendais avec intérêt et plaisir, et comme sociologue, j'aurais aimé poser plein de questions en fait à Ibrahima. Il a commencé à dire que le père laissait des journaux, etc. Donc ça veut dire qu'il y avait pas une absence totale de culture, qu'il y avait de l'écrit, qu'il y avait de l'imprimé qui circulait, que voilà, il y a eu de l'héritage aussi. Il l'a dit à un moment donné, au moment où le papa est décédé. Donc, et c'est toutes ces choses-là. Il faut arriver à les décrire pour comprendre pourquoi il y a quand même quelques enfants qui arrivent à se sortir de situations très très difficiles. Moi, j'ai travaillé là-dessus il y a très longtemps maintenant, sur les enfants qui réussissaient alors qu'ils étaient en milieu populaire, qu'ils avaient les mêmes propriétés sociales que les autres et qui réussissaient exceptionnellement. Alors souvent, on disait, bah oui, vous voyez bien que ça, le sociologue ne peut pas tout expliquer puisqu'il y en a qui réussissent alors qu'ils ont les mêmes propriétés sociales.
Justement.
Et en fait, bah, c'était lié à beaucoup de particularités familiales, à un rapport à... Bon, par exemple, il y a des formes d'autodidaxie, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y avait des parents qui, pour des raisons, ça a été dit par Ibrahima, pour des raisons religieuses, par exemple, qui ont un rapport au texte, un rapport à la spiritualité, etc., qui peut se transmettre, qui peut jouer à se convertir scolairement après en aptitude scolaire. Il y a aussi des parents qui peuvent être syndiqués avec une culture...
C'est ce que j'allais dire. Quand on a un papa ouvrier et syndicaliste, c'est pas la même chose que quand on a un papa uniquement ouvrier, par exemple. Parce qu'un ouvrier syndicaliste, il lit, il réfléchit sur pas mal de choses.
Il prend la parole.
Ça veut pas dire qu'un ouvrier qui est pas syndicaliste ne lit pas, il ne réfléchit pas. Mais c'est vrai.
Bien sûr.
Vous pouvez bien sûr nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. On accueille Martine qui est en région parisienne. Bonjour Martine.
Bonjour.
Martine, vous vous occupez d'un petit garçon de 12 ans que vous connaissez depuis qu'il a 4 ans. Expliquez-nous comment vous êtes en relation avec ce petit garçon et pourquoi vous souhaitez intervenir aujourd'hui sur les inégalités sociales et la réussite scolaire.
Alors, ce jeune garçon, moi, je l'ai connu parce que je connaissais son grand-père qui était concierge dans une association où j'étais. Et il était tout seul avec sa maman. Et j'ai eu envie de lui offrir des livres et je me suis aperçue que, il n'y avait personne pour lui lire. Alors, on a commencé comme ça notre relation et puis elle perdure depuis. Il a eu énormément de difficultés scolaires et je reproche beaucoup à l'éducation nationale de refuser quelconque redoublement parce que du coup il a eu des lacunes. Chez lui, les devoirs, c'est souvent devant la télé et puis maintenant il y a en plus les jeux vidéo. Alors ce que j'essaye de lui offrir, c'est des choses un peu différentes, c'est-à-dire théâtre, société, le côté un peu éducatif, lecture, abonnement à un journal pour qu'il essaye de d'avancer. Et c'est vrai que, par exemple, je me rappelle, on est allé au Quai Branly, la maman est
au musée du Quai Branly,
de Côte d'Ivoire. Oui. La maman est ivoirienne, donc il a aimé, mais c'est à toute vitesse et il a du mal à se polariser sur vraiment. Le théâtre, c'est pareil, il a du mal à aller au bout. Et encore, je choisis que ce ne soit pas des choses trop intellectuelles, mais plutôt ludiques. Et c'est vrai que c'est difficile. Il est actuellement en cinquième Ulysse et j'ai du mal à trouver un peu d'autres choses que la télé et les jeux vidéo.
C'est tout un apprentissage de la concentration finalement qui a manqué les premières années, hein. C'est ce que je comprends de votre intervention. Merci beaucoup Martine. Je voudrais qu'on donne la parole à Pierre Perrier parce que vous avez publié donc un livre sur ces parents invisibles, hein, l'école face à la précarité familiale, des parents qui ne sont ni présents ni représentés dans l'école par rapport aux autres parents. Alors, qui sont ces parents invisibles ?
Bien, le plus souvent, des parents qui sont confrontés à différentes formes de précarité, qui ont été eux-mêmes peu scolarisés ou avec une scolarité marquée par l'échec. Donc, il y a des souvenirs douloureux qu'ils revivent parfois, d'ailleurs, à travers leur enfant. Et surtout, donc, ils ne possèdent pas les codes de la relation, ils ne décryptent pas les attentes très implicites de l'école, ils n'ont pas les moyens d'accès à la formation utile pour accompagner la scolarité de leurs enfants. Et donc, ils sont dans une position en retrait, mais un retrait qui ne doit pas être assimilé, comme il est trop souvent fait, à une démission de la part de ses parents. Bien au contraire, je dirais, ceux qui possèdent peu sont ceux qui attendent le plus peut-être de l'école, tout en ne sachant pas comment faire avec les attentes, avec les besoins de leur enfant. Donc ils sont dans cette position très paradoxale où, effectivement, moins présents, voire absents au regard des attentes de l'école, ils sont en même temps surexposés. C'est-à-dire qu'en fait, l'école attend des parents qu'ils participent, qu'ils soient présents à des réunions, qu'ils prennent des rendez-vous, qu'ils se préoccupent de la scolarité par un certain nombre de signes, d'attitudes, de carnets signés et autres.
Pas seulement par les notes, hein, mais c'est plutôt ce que l'école attend des parents, c'est est-ce que mon enfant a bien compris les mécanismes de la multiplication, de la division. Est-ce que c'est beaucoup plus ça finalement, que les parents s'intéressent à ce que leurs enfants apprennent, c'est bien ça.
C'est-à-dire que les parents manifestent qu'ils s'intéressent selon les attentes de l'école. C'est-à-dire que ils s'intéressent. Enfin, je suis pas le seul, des sociologues à souligner, à marteler le fait que les parents sont tous préoccupés de la réussite de leur enfant, mais avec des ressources dans des conditions très très inégales. Et donc ces parents que nous avons rencontrés durant 2 années nous montre à quel point ils sont en décalage, en porte-à-faux, je dirais, par rapport aux attentes de l'école. Et c'est pas anodin si vous prenez l'exemple des devoirs, comme vous venez de le faire, parce qu'effectivement, là, on voit très bien qu'à la fois sur la maîtrise des contenus, sur les méthodes, sur la disponibilité en temps et la disponibilité mentale que les parents doivent avoir, il y a des conditions qui ne sont pas réunies dans un certain nombre de familles. Donc, en quelque sorte, l'école demande, on parle d'inégalité, aux parents d'accomplir des tâches sur lesquelles, pour lesquelles ils n'ont pas les moyens, les ressources nécessaires. Donc, non seulement leur enfant est en difficulté, mais les parents eux-mêmes sont en difficulté face à la difficulté de leur enfant. Donc, les inégalités qui se jouent au niveau de l'enfant, ce sont aussi, bien sûr, des inégalités qui se jouent au niveau des parents, dès lors que l'école les surresponsabilise et leur demande d'endosser un rôle pour lequel ils n'ont pas les compétences requises.
Ce qui fait que, en fait, l'école, en étant animée des meilleures intentions, rajoute un problème sur un problème déjà existant, sur des enfants qui n'ont déjà pas le maximum de chances pour réussir. Si en plus on exclut les parents, on n'est pas capable de les inclure parce qu'on leur demande des choses trop, trop compliquées à réaliser, c'est sûr que ça ne va pas s'arranger. Mais alors, du coup, quelles sont les solutions? Est-ce qu'il y a des expériences qui ont montré des effets sur la réussite des élèves en incluant davantage mieux les parents?
Oui, il y a des actions qui sont menées sur le terrain, dans des écoles, des établissements du secondaire. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui seraient d'ailleurs intéressantes de reconnaître davantage, de formaliser. Mais ça reste très localisé, très incertain, parce que ça repose sur des personnes. Donc, il faut une forte mobilisation. Les conditions ne sont pas toujours réunis pour que ça puisse durer dans le temps et produire tous ces effets. Mais je dirais d'une façon plus générale que si on peut être d'accord avec le principe d'une coopération qui implique une réciprocité, on peut en revanche, c'est l'objet du livre, constater, on ne peut que constater que les conditions, les modalités qui sont en fait imposées à tous ne s'adressent en réalité qu'à un sous-ensemble des parents, c'est-à-dire des parents des classes moyennes, des parents qui ont été suffisamment scolarisés pour justement se saisir ces attentes et savoir comment faire. Ça ne veut pas dire qu'ils trouvent toujours d'ailleurs non plus le bon accord avec l'école, mais quand même, ils savent davantage stratégiquement, je dirais, simuler la corps ou jouer le rôle qu'on attend d'eux.
En même temps, les enseignants, ils dénoncent quand même de plus en plus une mauvaise relation qu'ils ont avec les parents, quels que soient les milieux. Ils dénoncent chez les parents des attitudes très consuméristes. Quand ils racontent beaucoup que les parents n'hésitent pas à venir contester les notes, les sanctions. Et ça, c'est d'ailleurs, dixit les enseignants, c'est tout milieu sociaux. Qu'est-ce qu'il faudrait, Bernard Lahire et Pierre Perrier, pour que l'école se réconcilie davantage avec les familles de milieux modestes et qu'on arrive à... sans que ça crée un conflit de loyauté, parce qu'on ne va pas dire aux enfants, il ne s'est pas passé grand-chose dans votre famille pour que vous réussissiez, mais maintenant l'école va faire en sorte que vous allez réussir. Ça ne marcherait pas, mais comment faire finalement pour réconcilier ces problèmes, ce destin scolaire scellé trop jeune, Bernard Lahire?
Moi, je pense que ce n'est pas tant une réconciliation que déjà une formation des enseignants qui devrait être beaucoup plus axée sur la connaissance de toutes ces réalités. Parce que les enseignants, on sait leur recrutement, ils viennent de plus en plus d'origines sociales relativement élevées, donc ils ne savent pas par définition ce que sont ces milieux modestes. Ils ont été habitués à d'autres cultures, d'autres manières de faire, et ils considèrent comme évidentes toutes ces choses-là. Si les sciences sociales étaient un peu plus enseignées dans la formation des enseignants, déjà, ils sauraient l'état des milieux quand on publie des ouvrages, mais je pense que pour Pierre Perrier, c'est la même chose que pour nous. On pense que ça peut aider les enseignants à mieux comprendre les situations et à voir que souvent, ils sont dans le malentendu quand ils disent bon, les parents ne s'intéressent pas, etc. Bon, c'est souvent le produit de le gamin ne va pas bien scolairement, les parents, on ne les voit pas, donc les parents s'en fichent. Mmh. Bon. Et après, quand nous, on décrit la réalité qu'il y a derrière, c'est-à-dire des parents qui sont très, très occupés, ils travaillent au moment où il y a des réunions, ils sont un peu fébriles à l'idée d'aller dans l'institution scolaire, pour une partie d'entre eux.
Voire complexés.
Oui, absolument. Ils sont pas très, très bien. Et il y a des enseignants qui s'en rendent compte.
Parce qu'ils se sentent jugés aussi dans leur défaillance.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, ils se sentent pas toujours à leur place dans l'institution scolaire, parce que eux-mêmes ont eu une scolarité qui n'était pas terrible, avec des expériences assez malheureuses. Donc, du coup, tout ça fait que il y a un malentendu qui se crée. Donc, déjà, si les enseignants savaient un peu mieux ce que sont ces milieux, le fait que, comme l'a dit Pierre Perrier très bien tout à l'heure, c'est des parents qui voudraient que leurs enfants réussissent. Ils veulent tous, quand on les interroge, moi ça fait 20 ans que je travaille sur des questions éducatives, les parents disent moi j'aimerais que mes enfants fassent un métier moins fatigant, moins sale, moins dur, mieux payé, etc. Et ils savent que ça passe par l'école. Donc tout ça, ils le savent, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les compétences.
Les clés.
Voilà. Et du coup, plusieurs clés, oui. Parce que c'est des clés à la fois économiques, culturelles, voilà.
Pierre Perrier, vous êtes d'accord avec ça? Tout passe là, finalement, par une meilleure compréhension chez les enseignants de ces milieux pauvres?
Oui, alors à travers la formation initiale, comme ça vient d'être dit, et puis je dirais aussi à travers un accompagnement, enfin des conditions qui sont données dans les écoles et les établissements. J'ai rencontré beaucoup d'enseignants pour que face à l'incompréhension, face aux difficultés des enfants sans pouvoir avoir les parents comme interlocuteurs compétents, les enseignants soient aidés de façon réflexive, si vous voulez, sur leur pratique pour réfléchir à la manière individuellement et collectivement, parce que je pense qu'il ne faut pas laisser cet enjeu de la relation avec les parents simplement aux acteurs individuellement.
Et ne pas faire peser une responsabilité supplémentaire chez les enseignants qui en ont déjà beaucoup.
Alors,
on va devoir conclure, je suis désolée, parce que je voudrais qu'on parle aussi de l'actualité et de la précarité étudiante. Hein, c'est aussi un peu le prolongement peut-être de notre réflexion, mais je voudrais désannoncer, donc donner les ouvrages. Bernard Lahy, vous avez publié « Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants », édition du Seuil, et Pierre Perrier, vous avez publié « Des parents invisibles, l'école face à la précarité familiale » aux presses universitaires de France. Merci à tous les deux d'être venus dans l'émission. Bernard Lahy, vous êtes à Lyon, je pense que vous allez peut-être avoir envie de réagir. On va parler dans quelques secondes des difficultés financières des étudiants cette fois-ci.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
La précarité étudiante en France, on en parle avec vous, Orlane François. Bonjour.
Bonjour.
Orlane François, vous êtes présidente de la FAGE, le premier syndicat étudiant en France. Vendredi dernier, Anas, un étudiant de 22 ans, s'est aspergé d'essence devant les locaux des œuvres universitaires à Lyon. Il a mis le feu à ses vêtements, il est hospitalisé dans un état critique, le corps brûlé à 90%. Il avait perdu sa bourse sur critères sociaux parce qu'il triplait sa deuxième année de licence en sciences politiques à l'université de Lyon 2. Depuis, les étudiants, les enseignants se mobilisent pour protester contre la précarité des étudiants. Ça correspond à quelle réalité en France? En quelques mots, Orlane François.
Il y a un chiffre qui est assez marquant, c'est aujourd'hui 20% des étudiants vivent en France en 2019 sous le seuil de pauvreté. C'est 65% des étudiants qui avouent sauter des repas régulièrement parce que financièrement, ils ne sont pas capables de financer leur nourriture. Et puis, c'est un étudiant sur deux qui travaille en parallèle de ses études.
Et on sait qu'au-delà de 16 heures d'activité professionnelle, de petits boulots par semaine, et ben, un étudiant, forcément, il compromet ses études. C'est un vrai handicap pour réussir ses examens. Anna, c'était un militant au sein de Solidaires étudiants, une organisation d'extrême gauche. Est-ce que la FAGE se sent solidaire de ce qui se passe à l'heure actuelle et de cette révolte ?
Bien sûr, on a déjà rappelé, et on le rappellera encore, tout notre soutien à Anas et à ses proches, sa famille. Il est encore dans une situation très critique, puisqu'il est encore, il me semble, à l'hôpital entre la vie et la mort. Et donc, bien sûr que la précarité étudiante, c'est un sujet qui nous concerne et qui nous touche. Ce sont des revendications que la FAGE, pour en sortir, porte depuis des années maintenant. Et malheureusement, ça fait des années qu'on stagne, qu'on n'avance pas et que les gouvernements successifs n'ont pas pris la mesure de la situation et n'ont pas agi en conséquence.
Les gouvernements successifs, il y a eu des bourses étudiantes qui ont été revalorisées sous la présidence Hollande, me semble-t-il, hein, plus de 300 millions supplémentaires entre 2013 et 2015. Hein. Il y a eu un échelon supplémentaire qui a été créé de bourses où on est à autour de 450 euros par mois. C'est ce que percevait d'ailleurs Anas et il l'a dit dans le message qu'il a laissé, on ne peut pas vivre avec ça.
Tout à fait. On avait à l'époque déjà, parce que le constat était identique, on avait réussi à obtenir une réforme, en tout cas une augmentation des bourses et des créations de nouveaux échelons. Mais depuis cette réforme-là, depuis ce travail-là qui est du coup abouti en 2014, rien n'avait bougé. Les montants n'avaient pas été réévalués depuis ce jour-là. Et donc, quand on a un coût de la vie qui continue à augmenter, et que les bourses ne bougent pas. Aussi, il y a un parallèle, c'est que le public accueilli dans l'enseignement supérieur, il a évolué. Il évolue de plus en plus de jeunes arrivent dans l'enseignement supérieur, ce qui est une très bonne chose, mais du coup, les publics changent. Et on n'a pas été capable d'adapter notre politique d'aide sociale à ces nouveaux publics et tout simplement également au coût de la vie qui a augmenté depuis des années maintenant. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où les aides sociales, comme elles existent aujourd'hui, ne suffisent plus et ne permettent pas à un jeune de pouvoir poursuivre ses études normalement sans être contraint à travailler ou à faire des choix sur sa précarité.
Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous demandez ? Est-ce que vous êtes tous sur la même longueur d'onde, les syndicats, Solidaires étudiants, l'UNEF, la FAGE que vous présidez ? Vous préparez une plateforme de revendication commune ?
Alors je pense qu'on est tous d'accord sur un élément qui est de se dire qu'il faut investir. C'est un choix politique, mais financièrement, il faut qu'on investisse dans le système d'aide sociale parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que dans l'urgence, il faut qu'on ait une mesure d'investissement. Ça, on porte tous la même revendication et c'est assez clair.
Merci beaucoup, Orlane François, d'avoir été en ligne avec nous. Bien sûr, on reste en contact pour suivre ces révoltes étudiantes. Est-ce que vous appelez à rejoindre la mobilisation le 5 décembre contre la réforme des retraites ?
Non, nous ne serons pas de la mobilisation du 5 décembre.
Contrairement à d'autres syndicats étudiants.
Oui, évidemment, il y a certains appels à la mobilisation. La FAGE ne peut pas, à l'heure actuelle, à se mobiliser contre la réforme des retraites.
Merci d'avoir été en ligne avec nous, Orlane François. À suivre la chronique Parents-enfants d'ici et d'ailleurs, comme chaque vendredi.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de chroniques, toujours sur le thème de la parentalité, avec un nouvel invité, le psychologue Ibrahima Giroud. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Vous êtes sénégalais et vous travaillez pour l'UNICEF à Dakar. Vous avez travaillé sur la psychologie des enfants, sur la parentalité. Et vous nous proposez chaque semaine, chez 7 milliards de voisins, de répondre finalement à des questions que se posent presque toutes les familles. On peut vous retrouver désormais aussi toutes vos chroniques en podcast, hein, c'est toujours le même titre, Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, et vous avez le lien direct les voisins sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Alors première chronique avec vous Ibrahima Giroud, vous avez voulu répondre à la question quel type d'éducateur êtes-vous ? C'est une question qu'on pose bien sûr aux parents.
qui suis-je et quel type de parent est-ce que je suis en fonction donc, des relations que nous pouvons avoir avec nos enfants. Et si vous regardez, c'est une question que l'on trouve, quelle que soit la culture, quel que soit un peu le pays où on se trouve, même s'il y a des variantes ici ou là dans les rapports avec les enfants, on trouve grosso modo trois types de parents. On a ceux qui cadrent, on a également ceux qui décadrent, mais on a surtout ceux qui encadrent.
Alors, on va commencer par les parents qui cadrent.
Mais les parents qui cadrent, c'est une catégorie de parents qui ne pose pas le dialogue, mais qui impose les règles. La totalité des règles, sans qu'il ne soit possible de les challenger, de les remettre en question, et sans que l'enfant n'ait le temps de les absorber et de les traduire en comportement. On parle beaucoup dans ce cas de type de parentalité code de la route, avec un système d'obligation et d'interdiction. Tu dois, tu ne dois pas, tu peux, tu ne peux pas.
C'est le code de la route, en effet. Mais sur le papier, c'est le rôle le plus simple à tenir pour le parent.
Ça a l'air d'être quelque chose d'assez simple à tenir, et il faut le dire avec quelques résultats, au moins à court terme, puisque pour le parent qui cadre, c'est surtout l'idée de se faire obéir. Il faut que je me fasse obéir par mon enfant. Et tant que le rapport de force est en faveur du parent, on voit que l'enfant obéit. Mais en réalité, ce rapport de force ne restera pas éternellement en faveur du parent puisqu'il va changer vu que l'enfant grandit.
Ah.
Même si l'enfant obéissait au début, on voit que de plus en plus, il va se sentir à l'étroit dans ce cadre qui lui a été imposé et dans lequel il n'a pas été invité. Il va également souffrir d'un manque de retenue du parent et de l'incohérence des parents dans leur comportement avec lui, puisqu'en fait, les parents ne le traitent pas comme l'enfant qu'il est, puisqu'ils ne sont pas patients avec lui. Ils ne le traitent pas non plus comme un adulte quand on regarde le respect qu'ils exigent de l'enfant pour les adultes. Donc, ni l'un ni l'autre. Et donc, c'est une incohérence dans laquelle les parents plongent l'enfant. Et on voit également que dans ces cas de figure, les parents vont avoir tendance à, par exemple, donner des punitions totalement disproportionnées pour une petite faute ou au contraire, ne pas valoriser une action qui, aux yeux de l'enfant, était tellement bien faite.
Il parle et l'enfant, au bout d'un moment, ça lui passe au-dessus de la tête, c'est ça, d'une certaine manière ?
Oui, le cadre finit par craquer parce que l'enfant n'écoute plus. Et je reçois au cabinet des parents qui me disent, qui se plaignent que les enfants ne les écoutent plus. Alors, je les taquine un tout petit peu pour dire, mais est-ce que l'enfant a des problèmes auditifs ? Ils me disent, non, il entend très bien. Et je dis, ok, en fait, vous voulez dire qu'il ne vous écoute plus.
Ouais. Et pourquoi l'enfant a cessé d'écouter, finalement ?
C'est exactement ce à quoi ça devait aboutir. C'est une des limites de la parentalité qui cadre. Il cesse d'écouter parce qu'en réalité, le message qu'on lui dit, il n'en vaut pas. Le cadre devient rapidement insupportable parce qu'il n'est pas naturel pour un enfant que d'avoir juste un système d'obligation et d'interdiction et que les aspirations de l'enfant ne sont pas prises en compte par les parents.
Est-ce que ça veut dire que le parent qui cadre trop n'aime pas assez son enfant ?
Je ne pense pas que le parent qui cadre déteste son enfant. Je pense que le problème est beaucoup plus dans la façon d'aimer du parent, mais également dans l'histoire de ce parent-là. Si le parent a été lui-même maltraité, s'il a besoin de tout projeter sur cet enfant, s'il n'a pas de vie personnelle, s'il ne vit que pour son enfant, on voit que très rapidement, il va devenir possessif vis-à-vis de son enfant. Il ne gère pas ses propres émotions. Et donc, ça fait que l'enfant va subir le cadre parce que simplement, le parent ne maîtrise pas ses propres émotions.
Ibrahima Girou, à la fin de chaque chronique, vous aimez poser une question pour que tous les parents méditent et se remettent en question, justement. Alors, quelle est cette phrase pour méditer aujourd'hui ?
Ma question cette semaine pour nos voisins, c'est la suivante. Si le parent commet une faute en corrigeant celle de l'enfant, mais alors qui corrigera la sienne ?
Eh bien, c'est à méditer pour la fin de la semaine et on retrouve la deuxième chronique. Après le parent qui cadre, on aura le parent qui décadre. À très vite, Ibrahima Girou. Et merci à toute l'équipe qui prépare à chaque jour cette émission. Delphine de Dianous, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Luna Timbal. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast et puis aussi sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. On a envie de dialoguer avec vous. Et lundi, 7 milliards de voisins, l'antenne de RFI consacrée aux déchets dans le monde. Et chez 7 milliards de voisins, on posera une question. Est-ce qu'on peut emballer sans plastique ? On attend vos points de vue, vos témoignages. Dès maintenant, où que vous soyez dans le monde, au 33 1 84 22 71 71.
littérature.